Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Folie douce, ici Yvan Bugeaud. Aujourd'hui, je reçois Pauline Houle, elle vient nous présenter Famille Nouvelle. À l'espresso et à l'espresso allongé, Pierre Laporte amène son sujet, la technique du gaslighting. Notre collaboratrice Catherine Stassin est aussi des nôtres. Sa chronique, Je ne comprends pas mes émotions. On commence en chanson avec Toujours les vacances, des trois accords et cœur de pirate. Bienvenue chez nous.
Tu insuffles une vie qui rappelle l'ennui. Et à chaque moment, la confusion s'ensuit. Mais quand je te vois, se dérobe mon cœur. Et tous mes doutes s'éclipsent. Même si je me vois compter les heures, j'aimerais que tu prennes un risque.
Mais c'est toujours les vacances. Avec toi, c'est toujours les vacances. Quand on est ensemble, c'est les vacances. Quand on est ensemble, quand on est ensemble.
Un autre jour à me demander comment je faisais avant, à quel point tout a changé. J'ai souvenir d'une vie. Mais le chemin s'est ouvert dans les fleurs de mon tapis. Car quand ta voix enrobe mon cœur, plus rien autour n'existe. Et je voudrais que s'étire les heures, que tout reste au beau fixe.
Et c'est
toujours les vacances.
Avec toi c'est toujours les.
Avec toi c'est toujours les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Toujours les vacances.
Quand on est ensemble, c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
c'est les vacances.
Quand on est ensemble,
quand on est ensemble.
Folie douce, c'est l'émission qui vise l'authenticité et se vend de fraîcheur quand il est question d'information en santé mentale.
J'accueille maintenant mon invitée, Mme Pauline Houle. Bonjour Mme Houle, bienvenue.
Bonjour.
À Folie douce.
Merci de nous inviter.
Ça nous fait plaisir, vous êtes présidente de l'organisme Famille Nouvelle.
Excellent.
Qu'on va apprendre à connaître aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc Famille Nouvelle, dites-nous tout. D'abord, c'est quoi? C'est une organisation qui existe depuis longtemps, vous me
disiez. Oui, d'abord Famille Nouvelle a été créée par une religieuse qui est décédée maintenant depuis une dizaine d'années, qui s'appelait Sœur Dolores Riopel, qui faisait partie de la congrégation l'Institut Notre-Dame du Bon Conseil. Je l'ai très bien connue, c'était un honneur de travailler avec elle, pour elle. C'était une femme qui avait beaucoup de vision, qui reconnaissait que les gens sortaient de 10 rencontres de thérapie du CLSC ou de certaines agences gouvernementales et n'avaient nulle part où aller. Et notre mission principale, d'ailleurs, c'est la seule.
C'est rester la même.
C'est rester la même depuis 38 ans. Elle a fondé en 1987. Et la mission est de vraiment de rencontrer des gens pour la thérapie sans limite. Alors, bien, les organismes doivent mettre des limites, 5 ou 10 ou 20. Nous, on n'a pas de limite. Et nous ne sommes pas subventionnés. Alors, on a des donateurs, des bienfaiteurs qui croient vraiment en notre mission. Et c'est de donner de la thérapie aux gens selon leur budget.
Et dans tous les types de thérapie, on parle que santé mentale. Santé mentale, en fait, tout est santé mentale, là, mais est-ce qu'on parle de problématiques de santé mentale ou à peu près toutes les problématiques sociales?
La limite que nous plaçons, avec la nouvelle loi depuis, loin d'être nouvelle, là, mais depuis 2012, l'Ordre des psychologues du Québec a réussi à faire statuer sur c'est quoi la différence entre la thérapie et la psychothérapie. Alors, naturellement, on a des limites. Tout ce qui est psychothérapie ou psychologie reçoit, en principe, des cas un peu plus lourds. Alors, si quelqu'un nous appelle puis qu'il me dit « j'ai une dépression majeure », c'est sûr qu'on va lui recommander d'aller en psychologie avec un psychologue ou un psychothérapeute ou même à la rigueur, un psychiatre, quelquefois.
Ouais, ouais.
Mais nous, à Famille Nouvelle, on a choisi depuis longtemps la diversification. Alors, on a des thérapeutes en leçon d'être, art-thérapeutes, travailleurs sociaux, on a rarement un seul psychothérapeute. On a quelques psychologues accrédités dans leur pays d'origine, Brésil, Argentine, Colombie, qui ne sont pas nécessairement encore accrédités ici au Québec, mais on est très diversifiés. On reçoit des cas de l'IVAC, on a de la médiation familiale, on a aussi une approche psychocorporelle. Alors,
l'IVAC, c'est les actes violents, c'est ça? Hein?
En principe, l'IVAC, ça veut dire l'indemnisation des victimes d'actes criminels.
D'actes criminels, effectivement.
Mais aujourd'hui, je pense, sans être férue ni une experte avec l'IVAC, je pense qu'ils ont ouvert leur champ. Si, exemple, quelqu'un a subi des abus ou des traumas dans l'enfance, ils peuvent très bien être reconnus par l'IVAC.
Okay.
À ce moment-là, l'IVAC défraie plusieurs rencontres gratuitement.
Ouais.
Il s'agit de trouver quelqu'un, un thérapeute, qui est accrédité par l'IVAC pour les rencontrer.
Ouais.
Ah, c'est ça, la nuance.
On s'était dit qu'on allait se tutoyer, je pense, au début.
Bien sûr,
on va
se
tutoyer. Donc,
bien
Pauline, oui. Tu es là depuis plusieurs années comme
présidente. 33 ans.
33 ans. Pourquoi?
Pas comme présidente.
Non, mais pourquoi? Pour que c'est quand même de la relation d'aide.
Oui.
Ça peut être brûlant pour certains, ça peut être motivant, puis ça peut être gratifiant pour d'autres. Donc,
Pour moi, c'est une deuxième carrière. J'ai œuvré dans un milieu totalement différent pendant 20 ans. Je suis retournée aux études pour faire un bac en travail social, ensuite une maîtrise, ensuite plein d'autres formations. Alors, quand j'ai connu Sœur Dolores, c'était un peu une histoire d'amour. Je suis tombée en amour avec sa mission, avec cette femme-là. Alors, j'ai offert plusieurs années comme thérapeute bénévole. Puis ensuite de ça, j'ai quitté pour une sabbatique. Et quand je suis revenue, Dolores, qui était une femme d'action, dit « Bon, Pauline, là, j'ai besoin de quelqu'un sur le CA, là, viens-t'en. » Alors, c'est pour ça que je suis jamais débarquée depuis 1995 du CA. Alors, j'ai gravi plusieurs différents postes. Je pense que ça fait à peu près 20 ans que je suis présidente.
Et ça te permet aussi d'avoir un bon fil conducteur, de dire au courant des années, parce que ça évolue. Là. Comment l'organisme a évolué? Si on parle de 30 quelques années, presque 40 ans en arrière. On parlait à ce moment-là, probablement encore, il commençait à avoir des organismes sans but lucratif. Mais pas tant, là.
Non. Et nous n'avons jamais été subventionnés par l'agence du gouvernement,
ouais,
qui s'occupe surtout des organismes communautaires, le PSOC. D'aide aux organismes communautaires.
Par choix ou plus par...
Et on a essayé une année et leur réplique était que nous n'avions pas suffisamment de vie associative. Alors, je suis allée en appel. Je leur ai fait comprendre que des thérapeutes, ça ne sort pas avec leurs clients, ça ne fait pas de pique-nique, ça ne fait pas de rencontre hors de la thérapie, mais ça ne donnait rien. Mais en quelque part, nous sommes très heureux parce qu'on a trouvé d'autres méthodes d'être subventionnés. C'est sûr qu'au début, on a eu vraiment des moments très difficiles. Et c'est à ce moment-là l'Institut de Dolores, de Sœur Dolores, qui nous aidait année par année.
Okay.
Et aussi, vous savez peut-être que l'Institut de Notre-Dame-du-Bon-Conseil a aussi la Fondation Marie-Gérin-Lajoie, qui était la fondatrice de l'Institut, qui, après son décès, ils ont fait une fondation. Alors, c'est ceux qui nous ont aidés, mais depuis plusieurs années, on est plus autonome. On réussit avec des levées de fonds postales, avec d'autres situations, de vraiment bien. On n'est pas riche, comme dirait ma mère, il n'y a pas de folie à faire, mais on réussit très bien à à survivre.
Et vous, la clientèle, c'est plus des gens qui sont dans la région de Montréal ou un peu partout?
On dessert le Canada en virtuel.
OK. Oui, c'est vrai.
Il n'y avait aucun problème de ce côté-là, mais c'est sûr que 95 % de nos clients sont de Montréal et des environs.
Ça aussi, ça a changé avec la technologie. Tu sais, sûr, c'est quelque chose où, dans les premières années, physiquement, vous alliez rencontrer les gens.
Exactement.
Mais
c'est vraiment un peu, heureusement ou malheureusement, la COVID qui a vraiment amené le virtuel.
C'est une bonne nouvelle, la COVID, c'est ça?
De ce côté-là, c'est la seule bonne nouvelle.
Oui. En gros, parce que tout le reste, effectivement. Comment ça se passe au quotidien, dans une semaine? Ça ressemble à quoi? Est-ce que vous avez comme une façon de faire un peu des heures d'ouverture, ces choses-là,
absolument.
Ou c'est moins compté?
C'est-à-dire que nos thérapeutes travaillent de 9 à 9. Ça ne veut pas dire qu'ils font du temps plein, parce qu'à Famille Nouvelle, on a surtout des gens qui font du temps partiel, parce que, vous savez, quand on regarde les tarifs en privé, que ça peut aller jusqu'à 250, 300, 150 minimum, à Famille Nouvelle, notre minimum, c'est 50 $.
OK.
Alors, on a une échelle escalatoire de prix selon le revenu brut annuel de la personne.
OK.
Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. Au téléphone, on leur demande leur revenu brut pour rétablir le tarif. Depuis quelques années, on a un frais d'ouverture de dossier qui est devenu vraiment pour nous rentable, enfin, d'aide financière. Mais c'est ça, la majorité de nos clients, ça paye entre 50 et 75 $. On a quelques-uns qui ont mieux nanti. La belle nouvelle que j'adore toujours entendre, c'est un client qui nous appelle, puis on leur demande leur salaire, et il me dit « je fais 130 000 par année ». Je leur dis « à ce prix-là, vous pourriez aller en privé, n'est-ce pas ?» au lieu d'attendre un peu avec nous. « Non, il y a 20 ans, vous m'avez reçu à 2 $ de la rencontre. »
Oh,
là,
wow! C'est beau, ça.
J'en ai difficile de vous partager.
C'est vraiment beau,
superbe,
ça.
Superbe.
Oui, parce qu'ils vont croire en la cause, puis ils vont dire « Vous m'avez aidé, je vais vous redonner. »
Et je remets, effectivement.
C'est ça. Quel type de thérapeute, disais tantôt, Pauline?
Nous avons une équipe de 20 thérapeutes en ce moment. J'ai plusieurs thérapeutes en relation d'aide qui sont formés par le CRAM, le Centre de relation d'aide de Montréal. J'ai quelques psychologues accrédités dans leur pays, dont ils ne sont pas nécessairement encore accrédités ici par l'OPQ, l'Ordre des psychologues du Québec. J'ai une art-thérapeute, j'ai une thérapeute en psychocorporelle, j'ai une travailleuse sociale qui s'occupe des cas d'IVAC, j'ai quelques thérapeutes conjugaux familiaux. Est-ce que j'oublie? Je pense que non.
Ça fait une équipe assez multidisciplinaire.
Oui.
Puis votre clientèle, est-ce que tu dirais que ça joue à peu près de tous les âges ou c'est plus un peu plus vieux?
Ça joue pas mal de tous les âges. On répertorie qui nous réfère quoi. C'est sûr que la majorité, ce sont les CLSC, des organismes communautaires. Ensuite de ça, on a soit des cliniques médicales, universités, collèges. Un très bon pourcentage d'amis ou de la famille qui sont déjà venus chez nous, qui nous réfèrent.
C'est ça.
Alors, ça se diversifie là-dedans, mais c'est sûr que le plus gros pourcentage, c'est les CLSC et d'autres organismes.
Est-ce que, Pauline, est-ce que c'est Famille Nouvelle, c'est le seul organisme de ce genre-là, avec ce modèle-là, ou il y en a d'autres? C'est pas si connu, finalement?
Non, c'est pas si connu. Il y a plusieurs autres, je dis plusieurs, que je connais personnellement. Ouais. Nous sommes environ 7 autres organismes qui ont la même mission.
Okay.
Mais la différence, c'est que plusieurs d'entre eux sont subventionnés, alors que nous ne le sommes pas. Alors, c'est sûr que certains peuvent offrir un tarif un petit peu plus bas, comme peut-être 35, 40, 30 $, mais tandis que nous, notre plus bas, c'est vraiment 50 $.
Et comme tu disais au début, il n'y a pas de limite aussi, ça, c'est intéressant. Quelqu'un qui est vraiment... Parce que c'est souvent, quand on dit « vous avez droit à... » Le gouvernement, par exemple, va dire « Vous avez droit à 10 heures, 15 heures. » C'est jamais suffisant.
Non,
on a à peine le temps d'entrer dans la matière.
Exactement.
Là, c'est
ça, j'ai pas de chiffre en tête, là, mais j'oserais vous dire un bon 50 % de gens qui disent « Je viens de terminer chez XYZ. C'était 10 rencontres, c'était 5, c'était 15. Mais j'ai besoin de continuer. »
Ouais.
Alors souvent, ils s'en viennent chez nous.
C'est souvent la critique qu'on entend. T'sais, les gens disent que c'est pas assez, puis pourtant, ça a été décidé un peu... c'est sûr qu'il n'y a pas un budget limité là, avec le gouvernement, mais quand même, on sait tous que c'est pas suffisant. Pis,
Mais tu sais, si on savait, Yvan, si on réalisait que la prévention est beaucoup plus riche en revenus, en répartis, en retombées, que d'essayer de guérir quand la personne est au bout du rouleau. Là.
Ouais. Effectivement. Est-ce que à l'organisme Famille Nouvelle, est-ce qu'il y a eu des activités ou des prises de conscience pour prévenir? Est-ce que comme organisme, vous faites des actions?
Je vais être très franche avec toi. Nous n'avons, sauf quelques exceptions, nous n'avons jamais fait de vraie publicité parce qu'on serait débordé. On a déjà eu des listes d'attente de 6 mois, 8 mois. En ce moment, ça varie entre 1 et 2 mois, puis si on est chanceux, des fois, peut-être 3 semaines.
Peut-être avec l'émission, vous allez vous en avoir.
Ben, peut-être.
Mais en même temps, ça peut aider des gens.
C'est sûr que ça peut aider.
La vie arrange les choses, oui, souvent. On se dit, ben, les choses se placent. Il reste une couple de minutes. Pauline, comment tu vois la suite de l'organisme? On l'a dit tantôt, c'est un organisme qui existe depuis plusieurs décennies. Est-ce que c'est la poursuite? Est-ce que c'est... On poursuit.
Je sais que les Japonais ont des plans de 100 ans dans leur compagnie. Pour moi, c'est à très long terme.
Oui.
Je sais qu'à un moment donné, je vais avoir une terminaison parce que, bon, j'ai bien les cheveux gris, mais je suis heureuse d'être là. Mais éventuellement, moi, je vois vraiment Famille Nouvelle à très long terme.
Et de transmettre, d'avoir une relève aussi puis, pour
on
continuer.
On a une relève, ça c'est pris en compte.
Ça c'est excellent. Ouais. Avant de terminer, est-ce qu'on peut mentionner les coordonnées? Vous bien êtes sûr. Quand même ouvert là, comme
oui,
organisme. On disait qu'il y a des références, mais si quelqu'un sent qu'il y aurait un besoin... Là,
le 211, le 811 nous connaissent très bien, absolument.
On mentionne la Famille Nouvelle à ce moment-là. Pour,
effectivement.
Et sinon, le site web, on peut
le site
savoir.
Web, c'est pas compliqué, c'est www.famillenouvelle.org.
Ouais.
Et nous sommes situés au 4450 Saint-Hubert, juste au sud de Mont-Royal, à 100 pas du métro Mont-Royal. Et c'est sûr qu'on accueille tout le monde au téléphone.
Ouais.
Des fois, ça prend quelques jours à retourner les appels, mais nous sommes que des bénévoles au téléphone. Alors, c'est sûr, on n'a pas les moyens de se payer quelqu'un à temps plein. D'ailleurs, on en recherche des bénévoles. Mais c'est ça, on vit très bien.
L'invitation est lancée, si jamais il y en a qui veulent s'impliquer.
Absolument.
Merci beaucoup, Pauline Hull, présidente de Famille Nouvelle. C'est intéressant de vous découvrir. Je ne connaissais pas l'organisation, puis j'espère que les auditeurs
vont... Vous n'êtes pas les seuls.
Oui, les auditeurs vont savoir aussi que vous existez. Merci beaucoup.
Merci, Maïvan.
Au revoir.
Au revoir.
Je suis parfois beaucoup trop grand, parfois beaucoup trop petit. Je vis souvent m'effaçant, peu importe où je suis. Libre, libre, libre comme l'air. Vivre, vivre à ma manière. Libre, libre, je sais pas faire. Moi, je suis pas à l'aise dans de la piscine.
tous ces regards qui m'assassinent. J'ose pas sortir de la piscine.
Folie douce est aussi présent sur Instagram. Venez nous voir.
Nous voici maintenant rendus au segment Espresso. Bonjour, Pierre Laporte.
Salut, Yvan.
Aujourd'hui, ton sujet, la technique du gaslighting.
Le gaslighting, oui, c'est en un seul mot. C'est une expression que je ne connaissais pas.
Tu m'intrigues.
Oui, c'est vrai que c'est intriguant.
On se demande un peu ce que ça veut dire.
Oui. Alors, tout d'abord, si on regarde le sens du mot, simplement, si on va dans Wikipédia, on regarde l'étymologie. On nous dit que la pièce de théâtre de 1938, qui s'appelait Gaslight en deux mots, connue sous le nom d'Angel Street aux États-Unis, ainsi que les adaptations cinématographiques de 1940 et 1944 sont à l'origine du terme qui fait référence à l'utilisation systématique par le personnage principal de la manipulation psychologique sur sa victime. Dans la pièce, le mari cherche à persuader son épouse et son entourage qu'elle devient folle en manipulant des détails de leur environnement. Maintenant, dans un article que j'ai trouvé sur Internet, sur le site La Clinique E Santé, c'est un article qui s'appelle « Gaslighting, 8 signes pour repérer la technique d'emprise mentale du PN ». Et PN, c'est une abréviation de plus en plus courante qui signifie « pervers narcissique ». Et on crédite l'article l'équipe de la clinique E Santé. Alors, on nous dit que le gaslighting regroupe un ensemble de techniques manipulatoires utilisées dans le but d'avoir le pouvoir sur le mental d'une personne. En semant des graines de doute dans l'esprit de la victime, le manipulateur ou le pervers narcissique parvient à remettre en cause la réalité perçue par la victime. Cette pression mentale est principalement exercée par de nombreuses personnes malveillantes, soit les manipulateurs, les abuseurs, les gourous et psychopathes, mais surtout c'est une technique mentale caractéristique du pervers narcissique. Le manipulateur se sert de cette arme pour prendre le pouvoir sur votre cerveau sans que vous ne puissiez vous en rendre compte. Il va alors avoir davantage de pouvoir et d'emprise sur vous petit à petit jusqu'à prendre le contrôle total de votre psyché. Les techniques de gaslighting reposent sur trois éléments principaux. Il y a le mensonge, les omissions sélectives et la déformation de faits. Il pourrait être un bon avocat, peut-être, quelqu'un comme ça.
Peut-être, on dit que c'est des bons mentors. Ça dépend des avocats, je
pense. Peut-être.
Faut pas généraliser.
Non, c'est vrai.
Poursuivez-nous pas, surtout.
Oui, c'est ça. Alors, on nous dit, pour faire douter la propre réalité de quelqu'un sans qu'il ne puisse être alerté, le pervers narcissique va user de ces techniques insidieusement. L'intensité va être graduelle et la mise sous emprise progressive, jusqu'au point où la victime remettra en question sa propre santé mentale. C'est assez mesquin, ouais. Si tu me permets ce petit commentaire.
Ça m'étonne encore que ça existe, ce genre de situation-là. Ça doit être quand même... c'est pas drôle pour la personne qui en est victime.
Je pense que ça disparaît pas avec le temps, les individus mal intentionnés, ouais. Mon petit commentaire.
Sûrement, ouais.
On nous dit, en effet, à force de ne plus distinguer le vrai du faux et de douter de ses propres capacités cognitives, vous perdez peu à peu votre estime de vous. Vous n'arrivez plus à croire en vous et la confiance en soi et le bien-être mental dégringolent. Le gaslighting est une technique qui apporte un lot de nombreuses conséquences pour la victime qui en souffre. Elle peut développer du stress ou une anxiété, avoir l'impression d'être atteinte de démence, de souffrir d'addiction ou de sérieux troubles du sommeil, pouvant mener à la dépression, à la psychose ou se suspecter elle-même d'avoir un trouble genre borderline. Il est donc important de comprendre comment fonctionne la manipulation mentale pour la repérer et s'en défendre. Connaître les 8 principaux signes du gaslighting va pouvoir vous éclairer sur votre situation. Premièrement, le premier signe il vous ment constamment. Le mensonge est l'arme principale du manipulateur. Il va mentir éhontément pour tout et n'importe quoi, même s'il sait que vous doutez de lui. Il sait faire preuve de persuasion et use de sa confiance en lui et de ses compétences oratoires pour vous déstabiliser. Le gaslighter vous ment sur des faits précis, vous cache certaines informations ou il déforme la réalité. Signe numéro 2, il nie ses faits et gestes. Avec un aplomb sans pareil, le pervers narcissique est le roi du déni. Malgré le fait que vous avez vu ou entendu certaines choses, il va nier fermement ce qui s'est passé. Peu importe les preuves que vous lui apportez, il trouvera le moyen de détourner la conversation ou même rejeter la faute sur vous et votre mémoire qui vous fait défaut. Chaque argument de votre part sera rejeté et démonté par des explications que lui seul peut justifier. Signe numéro 3, il ne fait pas ce qu'il dit. Avez-vous remarqué un décalage constant entre les promesses de votre interlocuteur et ses actes? Si c'est le cas, vous faites peut-être face à un gaslighter. Les gourous connaissent mieux que tous la force des mots. Très souvent, ce sont ces personnes qui préparent leur discours trompeur à la virgule près pour qu'ils puissent avoir l'effet escompté. Des vrais politiciens, hein, finalement. Non?
Certains, peut-être. on commence à s'attirer des avocats, les politiciens. C'est ça, ouais.
Alors, ceux-ci vous font rêver, vous font des promesses et espèrent gagner votre confiance. Signe numéro 4, il fait du renforcement positif. Connaissez-vous le renforcement positif? C'est une technique de conditionnement qui consiste à renforcer un comportement avec des compliments ou des récompenses. Elle est beaucoup utilisée dans le cadre de thérapie ou dans l'apprentissage des comportements à adopter pour les enfants, notamment pour prévenir de la phobie scolaire. Cette technique éducative est positive et encourage les personnes à adopter une meilleure attitude, sauf dans le cas évidemment du gaslighting. Bon, écoute, je vais m'arrêter ici et je vais poursuivre un peu plus tard dans l'émission.
Oui, sujet intéressant, on va écouter plus amplement plus tard à l'émission, effectivement.
Les meilleurs chroniqueurs en santé mentale s'expriment sur les ondes de Folie douce. Écoutons-les.
C'est maintenant le moment d'accueillir Catherine Stassin. Bonjour Catherine.
Bonjour Yvan.
Alors aujourd'hui, ta chronique, « Je ne comprends pas mes émotions ». Est-ce que c'est une citation de toi-même ou c'est plus le sujet de la chronique?
C'est le sujet. Mais c'est vrai que ça peut m'arriver, en effet, de ne pas comprendre où j'en suis.
Je blague un peu, mais à tout le monde. Des fois, on ne se comprend pas trop. Là, ouais.
Ben oui, on peut chercher des émotions où on n'est pas sûr.
Puis, tu sais, la santé mentale, on parle de santé mentale ici, tu sais, souvent, ouais. ça fait peur aux gens, mais les émotions font partie de la santé mentale. Tu sais, on a tous des émotions, des hauts, des bas. Ça va mieux, ouais. Ça va moins bien, ouais. Selon les situations. Alors, c'est important d'en parler. Hein.
Oui, et puis, c'est aussi important de savoir par quel type d'émotion on passe, ouais. Parce que, du coup, ça permet de savoir, tiens, j'ai réagi comment,
savoir les reconnaître.
Est-ce que c'est de la colère, est-ce que c'est de la frustration?
Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas capables d'interpréter leurs émotions. T'sais, ils vivent des choses, puis ils ne sont pas capables de mettre un nom là-dessus ou d'avoir un regard là-dessus. Là.
Mais, en effet, je pense que tout le monde passe à travers ça à un moment ou à un autre, hein, ça peut nous arriver, mais il y a vraiment des personnes pour qui c'est une impossibilité de mettre un nom sur une émotion. Donc ça, on tombe dans un autre domaine quand même. Hein. C'est vraiment des gens, c'est environ des personnes qui... C'est une souffrance, là, et on parle d'alexithymie.
Ah, c'est ça le
Alors,
mot...
Alors, ah, ça veut dire de nouveau sang. Et puis, lexis, c'est le mot, hein, un lexique. Mm-hmm. Et puis, thymie, c'est... l'humeur, donc ça veut dire que donc quelqu'un vraiment qui n'arrive pas à mettre des mots sur son humeur, sur ses émotions, c'est quelque chose qui est, on parle ici, on ne dit pas qu'il y a vraiment un manque d'émotion chez ces gens, attention, hein. Mais par contre, c'est comme un trait de personnalité plus, quelqu'un qui n'arrive pas à identifier par quelle émotion il ou elle passe Et si ça devient pathologique, alors il y a une souffrance. Si c'est extrême, il y a une véritable souffrance, parce que c'est sûr, on va voir que ça a des conséquences dans la vie de tous les jours. Si on ne sait pas identifier, est-ce que je suis fâchée? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis désespérée? Est-ce que je panique? Est-ce que j'ai mal quelque part? Est-ce que je suis dégoûtée de quelqu'un ou de quelque chose? Donc, on parle souvent que l'alexithymie concerne environ la moitié des personnes autistes et d'autres personnes ayant aussi, qu'on va repérer surtout par des symptômes psychosomatiques. Donc, j'ai mal au dos, mais en fait, le mal au dos veut dire autre chose, d'accord ?
Ouais.
C'est ça le psychosomatique. On va voir, par contre, on ne peut pas dire que ce soit réservé au typique de l'autisme. D'accord ? Donc, on est ici dans autre chose, hein, même si la moitié des autistes passent par cette condition également.
On a la difficulté à reconnaître leurs émotions. Mais
tout à fait.
Déjà, oui. En général, les gens ont peu de temps pour s'asseoir. On dit souvent ça. Il y a souvent des conseils en disant « prenez quelques minutes par jour ». Analyser un peu votre ressenti, vos émotions. Les gens ne font pas ça de base. Déjà, si on ne fait pas ça, ça va être difficile de reconnaître les émotions.
Tout à fait. Est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis frustrée parce que je suis fatiguée ou Dieu sait
quelle
quoi.
Raison.
On n'a pas, en effet, le temps tout le temps de tout analyser. Mais on voit que c'est plutôt... Donc, je parlais ici de troubles connexes par rapport à l'autisme. Hein, on parle de troubles qui va être... Mais dans la population... ceux qui ont des difficultés où ce n'est pas dramatique pour leur vie, c'est de 17 à 23%, donc c'est quand même élevé.
Ouais,
hein.
Quand même.
Mais chez qui ça devient une souffrance, le pourcentage est beaucoup plus bas. D'accord, c'est vraiment quelque chose qui est une souffrance pour la vie de la personne, personnelle, familiale, sociale, donc professionnelle, amoureuse. Donc ces personnes-là sont en difficulté, en grande difficulté, quand il s'agit de vivre toutes les sphères de la vie, comme vous et moi, et d'avoir une vie, entre guillemets, normale. Hein. Donc, on peut comprendre pourquoi. C'est sûr que si on ne reconnaît pas nos émotions, l'autre personne avec qui on vit va peut-être les reconnaître, mais on ne va pas agir en conséquence. Ça va être un petit peu confrontant. Et surtout, quand on est face à quelqu'un qui lui-même ne reconnaît pas une émotion, c'est désopilant. C'est un petit peu comique comme mot, peut-être. C'est peut-être pas celui-là que j'aurais dû choisir. Mais je veux dire, c'est déroutant. On va dire ce mot-là plutôt, d'accord ?
Ouais.
Donc, on peut distinguer deux sortes d'alexithymie. La primaire, qui est vraiment un trait de personnalité, ok ? C'est dû ou à des facteurs génétiques ou neurobiologiques. Donc, c'est arrivé comme ça. Et c'est ce qu'on appelle la primaire. La secondaire, ça peut être induit par un traumatisme cérébral. Donc, on a déjà vu d'autres conditions qui venaient de traumatisme cérébral ou psychique. Et on devient alexithymique. Et donc, on a plus de difficultés à reconnaître nos émotions suite à un choc. D'accord ? Alors, il y a aussi des degrés d'atteinte. Il y a le primaire et le secondaire, mais quand on est alexithymique, on a aussi des degrés d'atteinte. Il y en a qui sont très légèrement atteints et qui pour fonctionner dans la vie, d'accord ? Ils peuvent avoir une vie sociale, amoureuse, professionnelle, personnelle, se développer, etc. et avoir quelques difficultés uniquement. Et puis, il y a les formes sévères où là, évidemment... il faut encore que ce soit identifié, ce n'est pas facile, hein, parce que quelqu'un qui a de l'alexithymie ne va pas avoir énormément d'introspection non plus. Donc, ça va être difficile à aller chez le médecin et en plus s'exprimer comme il faut et dire, dans le fond, j'ai un problème, il faut que ce soit un médecin un peu perspicace ou qu'il y ait des gens autour qui peuvent dire qu'il y a un petit problème de ce niveau-là. Alors, on va voir que... C'est quoi les difficultés principales ? On a parlé qu'ils ne peuvent pas nommer les émotions, mais donc ça veut dire qu'on ne peut pas identifier ce qu'on ressent. D'accord ? On ne peut pas identifier et on ne peut pas identifier non plus nos propres sentiments et puis ceux des autres, ça peut être une difficulté aussi. Donc on peut voir ça dans l'autisme, c'est ce que les gens connaissent en général. Et puis, il y a la difficulté aussi, pas qu'à identifier, mais à exprimer ses émotions. C'est encore autre chose. Ça.
Et en ne les identifiant pas, on n'est pas capable de modifier ou d'améliorer sa façon d'être.
Ça, c'est, voilà. améliorer entre guillemets, mais c'est-à-dire de être capable de socialiser selon les normes.
Ouais. Tout à fait. Essayer de diminuer, tu sais, s'il y a des émotions très très fortes qui nous virent à l'envers, tout ça.
Oui.
Puis on n'est pas capable de les identifier, ça devient problématique parce que la personne se dit mais j'aime pas ça être dans cette situation là, mais je suis pas capable de comprendre pourquoi.
C'est ça. Surtout qu'il y a aussi une difficulté à verbaliser ce qu'ils ressentent. Donc, non seulement ils ne peuvent pas identifier, ils ne peuvent pas verbaliser.
Ouais.
Tiens, pour le moment, je suis en colère.
En tout cas,
je suis remis à quelque chose qui ne va pas, ou j'ai une émotion. En tout cas, j'ai une émotion, je ne sais pas ce que c'est.
Qui n'est pas agréable.
Mais c'est fort.
C'est ça, c'est fort. Mais au moins, déjà, de prendre en part conscience,
oui,
ça peut au moins, on essaie de le prévenir. Pourquoi j'ai eu cette émotion-là, j'imagine.
Mais on verra qu'il y a toutes sortes de possibilités, de solutions, quand même.
Ouais.
Hein. Il faut rester positif.
Oui, il y a toujours des solutions.
On voit évidemment que ça influence sur les relations personnelles et que ça, y a un problème de construction de relations, que ce soit amicales, amoureuses, professionnelles, sociales, simplement en allant à l'épicerie et s'adresser d'une manière, entre guillemets, neutre ou en tout cas une manière qu'on reconnaît.
Civilisée
aussi. Voilà, c'est ça, selon les normes sociales toujours.
C'est ça.
De notre société.
Ce qu'on voit de moins en moins de nos jours, malheureusement, ça se perd.
Ça, c'est encore un autre sujet
Ça se perd. Les gens sont tellement à fleur de peau. L'impression que la mèche est tellement courte.
Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grandes sensibilités partout, en rue, à l'épicerie. Ouais. Je dois avouer que j'ai remarqué ça aussi.
La bonté d'être agréable avec les autres, ça ne coûte pas grand-chose.
Oui.
Puis ça peut faire le bonheur de plusieurs. Là.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait. Je pense que
c'est déplorable.
On peut demander aux gens de continuer à cultiver l'empathie. C'est bien sympa pour les autres.
Oui.
Donc, problème de relations interpersonnelles. Et puis, on l'associe avec d'autres troubles, ça, j'en ai parlé. On va pouvoir la détecter parce qu'il y a des douleurs chroniques. Alors, c'est comme ça le plus souvent qu'un médecin va pouvoir peut-être identifier ou un petit peu, en tout cas, affiner un diagnostic. C'est qu'il va pouvoir se rendre compte, tiens, cette personne présente... elle n'a pas de problème physiologique ou biologique, etc., mais elle parle quand même de certaines douleurs. Et donc, il pourrait identifier par là. Ou peut-être simplement aussi en ayant une conversation avec quelqu'un et lui dire comment est allée votre journée ou comment allez-vous. Et la personne ne sait pas comment elle va, en fait.
Ouais.
Elle ne peut pas répondre « ça va, mais... » Je sais pas.
Ou ça va pas pour quelque chose, mais je sais pas pourquoi ça va pas.
Voilà, exactement.
C'est souffrant, là.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est souffrant, certainement, parce qu'il y a un décalage avec ce qu'on exige des personnes.
Ouais.
Alors, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même des thérapies qui peuvent soulager les patients les personnes, plutôt, alexithymiques, et les aider petit à petit à aller identifier leurs émotions. Et donc, quand on identifie notre émotion, dans le fond, je suis fâchée parce que j'ai été témoin aujourd'hui d'un sans-abri qui s'est fait enfermer dans des toilettes par des enfants d'école secondaire. Ce qui n'est pas très sympa.
Non, ce n'est pas très sympa. C'est une histoire vraie, ça, ou c'est un exemple?
Oui, c'est quelque chose que j'ai vu aujourd'hui.
Wow. Oh là là.
C'est pas très drôle, j'y ai repensé plusieurs fois parce que je n'ai pas eu le temps de réagir tout de suite. Ça s'est fait comme ça, en fait. Je croyais qu'ils jouaient entre eux.
Ouais,
cette personne est sortie en hurlant.
Ouais.
Elle a eu très, très peur.
Mais c'est quand même...
C'est là que j'ai vu que c'était une sans-abri et qu'en fait, il se moquait d'elle, en fait. Hein.
Oui, absolument. Wow, une situation vécue. Mais Catherine, est-ce que tu t'es posée dans cette situation-là? C'est une question sur tes émotions. Qu'est-ce que tu ressentais? Comment tu as agi?
Mais c'est sûr que là, j'ai été en fait stupéfaite. Hein. J'étais choquée, donc je ne savais d'abord, au-delà de savoir comment agir face à un groupe.
Ouais.
On est un peu désarçonné, on est déséquilibré, on se dit mais qu'est-ce qui se passe? C'est pas très agréable.
Non.
Alors on imagine les gens qui ne savent pas mettre de mots sur leurs émotions. La difficulté qu'ils ont à vivre encore plus avec tout ce qui se passe, tout ce qu'ils vivent dans le quotidien, le social, le professionnel, etc. Et c'est en plus, ils ont une difficulté à nommer et ensuite à exprimer, à dire, oh ben aujourd'hui, c'était difficile parce que j'ai vécu cela ou cela.
Ouais, ouais. Ça reste que le conseil que plusieurs nous ont donné de dire, prenez 5 minutes, tu sais, c'est rien 5 minutes, puis souvent, on y pense pas, mais en prenant 5 minutes, au moins faire le point, que ce soit en fin de journée ou quelque part dans notre journée, juste pour se poser un peu. Peut-être des fois, ça peut aider, en tout cas, de prendre cette habitude-là. Hein.
Voilà, je pense que, oui, c'est pour les personnes, disons, habituelles, où on a un petit problème avec nommer l'émotion, où c'est pas pathologique, c'est sûr que ça va aider.
Ouais.
Pour ce qui est vraiment des gens qui ont cette pathologie de l'alexithymie, c'est sûr qu'il faut aller voir des professionnels. Hein. Si vous vous sentez concerné, vous êtes reconnu plus ou moins dans ce que je décrivais, il faut aller demander de l'aide, parce qu'il y a des thérapies qui vont vous aider, comme je disais, à identifier, à comprendre, à exprimer ce que vous ressentez,
ouais,
et donc à accéder à un bien-être psychologique et aussi à pouvoir développer des relations. Je ne dis pas qu'il faut absolument développer des relations sociales, professionnelles, etc. Mais je vais dire, si c'est de l'ordre de l'accessible et que ça peut vous faire du bien, pourquoi pas?
Oui, mais merci Catherine. On va, comme d'habitude, on va mettre les références dans notre site web sur la chronique « Je ne comprends pas mes émotions », l'alexithymie, le mot scientifique. Donc, notre site antenne.qc.ca dans la section mentionnée à Folie douce. Merci Catherine et à la prochaine.
Merci Yvan.
De retour au micro à Folie douce, qui vous renseigne sur les difficultés émotionnelles.
Nous voici de retour au micro avec le sujet, la technique du gaslighting que tu as commencé plus tôt, Pierre.
Oui.
On a appris beaucoup de choses, puis il y a encore des choses à apprendre.
Il y a encore des choses à apprendre, oui. Je vais poursuivre la lecture de l'article que j'avais commencé, un article qui s'appelle « Gaslighting, 8 signes pour repérer la technique d'emprise mentale du pervers narcissique ». Et on donne le crédit de l'article à l'équipe de la clinique E-Santé. Alors, j'étais rendu au signe numéro 5 de ces pervers méchants narcissiques. On nous dit « Celui-ci projette ses fautes sur vous ». On nous dit « La projection est une technique de gaslighting qui consiste à attribuer à une autre personne ses propres fautes, ses propres émotions ou ses propres pensées négatives. La personne qui utilise cette technique peut essayer de faire croire à l'autre personne qu'elle est responsable de ses propres problèmes ou de ses propres échecs. Un conflit relationnel, un examen raté, une mauvaise gestion du temps ou un manque d'estime de soi, par exemple. » Signe numéro 6. Il vous fait du chantage. C'est l'un des signes les plus vicieux du gaslighting, le chantage. Le pervers narcissique trouve sa force en exerçant un moyen de pression lorsqu'il s'en prend à ce qui vous est le plus cher, c'est-à-dire vos amis, vos enfants, la passion, le bien matériel, etc. Si vous êtes victime d'un abuseur, vous pouvez faire face à de nombreuses menaces. Signe numéro 7. Il vous isole des autres. À force de manipulation, le pervers narcissique finit par vous isoler de votre entourage par le biais de deux techniques, soit en montant les autres contre vous, soit en détruisant la confiance que vous portez aux autres. Dans le premier cas, il va exprimer à vos proches que vous avez des problèmes, que vous perdez la tête ou même que vous lui faites du mal. Signe numéro 8, le dernier, il vous rend dépendant de lui. L'emprise mentale de la perversion narcissique est à son apogée lorsque le bourreau se rend compte que vous dépendez de lui. Il vous a fait douter de vos proches, de vous-même, de vos décisions, puis vous avez perdu confiance en vous et en vos compétences. Vous perdez peu à peu votre autonomie puisque vous avez constamment besoin de son avis et de sa validation. Et vous allez même jusqu'à vous sentir redevable envers lui et l'attention qu'il porte sur vous. La dépendance à l'autre est consciemment provoquée par le manipulateur. Il a tout mis en œuvre pour n'être que la seule référence, la seule personne sur qui vous pouvez compter au quotidien. Vous avez l'impression d'avoir viscéralement besoin de lui pour avancer, prendre des décisions ou tout simplement être heureux. Le gaslighting n'est pas réservé qu'aux relations de couple. Très souvent mis en avant, il est vrai que les manipulateurs en couple s'équipent de ces techniques pour manipuler leurs victimes. Toutefois, il est possible d'être victime d'abus mental par un collègue, un supérieur, un ami ou même un membre de sa famille. La toxicité relationnelle n'est pas un déséquilibre observé uniquement chez les partenaires amoureux. Maintenant, comment ne plus souffrir de cette technique de manipulation dans son ensemble? Le gaslighting est une technique de manipulation invisible, mais aux répercussions fortes et bien remarquables. Pour ne plus souffrir de cette emprise mentale et retrouver votre liberté, voici 5 étapes. Premièrement, faire un état des lieux. Il est important de reconnaître ce qu'il se passe pour accepter votre état et commencer à faire face frontalement à la manipulation. Poser un diagnostic sur cette situation, notamment avec l'aide d'un professionnel de la santé mentale, va être le point de départ qui va mettre fin à vos doutes. Deuxièmement, parler à quelqu'un de confiance. Dans des situations compliquées comme celle-ci, il est important de s'entourer d'une personne en qui vous avez confiance pour que vous puissiez être compris et soutenu. Membres de la famille, amis, proches, collègues, etc., peu importe la nature de votre relation. Troisièmement, contactez un psychologue. Le gaslighting apporte un lot de difficultés émotionnelles et mentales lorsqu'il vous traverse. Un appui thérapeutique est alors bénéfique pour comprendre la situation. Gérer les marques que cela vous a laissées, comprendre les mécanismes de la dépendance affective créée par le pervers et apprendre à imposer des limites pour vous protéger. Quatrièmement, couper les liens. Puisque la manipulation mentale est une technique sournoise, instaurer une distance avec votre bourreau ne suffit pas. En général, la seule solution est la fuite. Il peut être difficile de vous en détacher, surtout s'il s'agit d'un membre de votre famille ou si vous vivez une relation de couple avec un manipulateur. C'est dans ces cas les plus délicats qu'il est bénéfique de faire appel à votre entourage de confiance et à un thérapeute pour vous aiguiller. Cinquièmement, reprendre le contrôle. Après avoir coupé les liens avec un manipulateur, il est temps de prendre du temps pour vous retrouver. C'est le moment idéal pour débuter une nouvelle activité afin de marquer cette rupture émotionnelle et mentale. Pratiquer une activité sportive ou se reconnecter à soi avec la sophrologie dont je vais parler bientôt, c'est une forme de yoga en fait, ou encore profiter de la nature. En cinq mots, profiter de cette liberté nouvelle. Alors voilà, Yvan, pour ce qu'on appelle maintenant le gaslighting. Oui, c'est peut-être une expression qui va devenir plus connue, plus utilisée.
Je ne savais pas que ça datait de ces années-là. En fait, on parle il y a longtemps, au dernier siècle, en fait, avec la pièce de théâtre puis l'adaptation, tout ça. Puis dans le fond, ça a longtemps existé, puis c'est encore le cas.
Oui, c'est resté, on dit en bon français, underground.
Oui, oui. Merci beaucoup, Pierre, pour ce sujet, la technique du gaslighting.
Plus fuir notre ombre, enfin. Merci de m'avoir réparé, sorti du sombre et aimé bien. Je n'ai plus envie de me noyer dans les fluides de mon corps. On a survécu à la vie encore.
C'est encore meilleur la deuxième fois? Écoutez-nous en reprise sur YouTube en cherchant Folie Douce Radio.
Quelques secondes avant de terminer ce rendez-vous, Pierre, de Folie Douce, on va nommer les chansons entendues cette semaine.
Oui.
La première, Toujours les vacances.
De Les Trois Accords et Cœur de Pirate.
On a entendu Jane Birkin.
De Mika.
Dans la deuxième partie de l'émission, les courants d'air
de Isabelle Adjani avec Gaëtan Roussel.
Et à l'instant, J'ai mille vies
de La Bronze.
Merci beaucoup pour ce choix musical et pour ton travail en régie.
Ben, bienvenue, mon cher.
À ton espresso et espresso allongé, tu nous as apporté ton sujet, la technique du gaslighting. Oui. On a appris ce que c'était. On a tout su sur le sujet. Notre invitée en début d'émission, Pauline Houle, nous a présenté Famille Nouvelle et notre collaboratrice, Catherine Stassin, a présenté sa chronique Je ne comprends pas mes émotions. C'était donc Folie Douce cette semaine. C'est Yvan Bugeaud à l'animation. Bonne semaine à tous et à la prochaine. Au revoir.